Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire consacré au règne de Louis XIV. Nous le savons, Louis XIV est à la mode, tout particulièrement cette année, notamment grâce à l'exposition qui a été présentée dans le cadre du château de Versailles. Elle s'est terminée début février. Un colloque fut aussi organisé au mois de janvier dernier par le centre de recherche du château. Il s'agissait essentiellement, je cite, d'analyser l'image que le grand roi renvoyait à l'étranger, mais également celle qu'il pouvait se faire de lui-même. En effet, s'il est né pour être roi, Louis XIV ne disposait pas moins de goûts propres, des goûts auxquels il convient de rendre justice. En s'intéressant plus particulièrement à la dialectique de l'homme public et de l'homme privé, eh bien ce colloque avait pour objectif de dépasser cette image publique renvoyée par Louis XIV lui-même pour mieux saisir l'homme. Mais comment connaître mieux cet homme qu'en le suivant au jour le jour ? Accompagner le roi au quotidien de sa naissance en 1638 à sa mort en 1715 et l'incroyable défi que s'est donné l'historien Christophe Levental. Sur la base de la fameuse Gazette de Théophraste Renaudot, créée en 1631 et qu'il a décortiquée, eh bien Christophe Levental a réalisé un travail monumental que l'on qualifiera de bénédictin, un travail recensant l'intégralité des gestes, des visites, des réceptions, des communications du roi, sa pratique religieuse naturellement, mais aussi ses loisirs. Plus de 10 ans de travail, plus de 8000 notes, 20 000 entraînant d'index, une œuvre que nous allons découvrir avec vous aujourd'hui au cours de cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. Christophe Levental, bonjour.
Bonjour cher monsieur, merci de m'avoir invité.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc historien, spécialiste de l'Ancien Régime, de ses institutions et la Maison de Bourbon. Vous êtes le fondateur d'ailleurs de la revue Études Bourboniennes. Et vous venez donc de publier chez l'éditeur suisse Infolio une chronographie, tel est le terme exact, de la vie de Louis XIV. Alors plus de 1000 pages en deux albums, deux tomes magnifiquement reliés et disponibles sous coffret. J'allais dire qu'on ne peut plus travailler aujourd'hui sur le grand siècle. Il y avait le dictionnaire du grand siècle sous la direction de François Bluch. Maintenant, il y aura la chronographie d'un règne de Christophe Levental en plus, puisque tout étudiant maintenant ne pourra se passer, et tout passionné du siècle de Louis XIV ne pourra se passer de cet ouvrage. Pourriez-vous, Christophe Levental, nous présenter la genèse de cet ouvrage? C'est un véritable pari, nous l'évoquions peu avant l'émission. Vous êtes engagé seul, et d'ailleurs, comment s'engage-t-on dans un travail de plus de 10 ans?
Avec beaucoup d'inconscience, certainement, beaucoup d'intérêt pour le sujet que l'on a choisi, beaucoup de confiance quand même en l'édition, même si j'ai eu quelques déboires pour trouver un éditeur, notamment en France, pour publier ce livre. Et puis, au quotidien, le travail passionnant qui a consisté à retrouver toute cette vie si riche et d'utiliser surtout ce merveilleux instrument de travail qu'est la Gazette de Théophraste Renaudot, créée, comme vous l'avez dit, en 1631, c'est-à-dire 7 ans juste avant la naissance de Louis XIV en 1638, et qui a subsisté sous cette forme jusqu'à la Révolution française.
Alors, nous allons revenir sur la Gazette qui deviendra la Gazette de France plus tard. J'en reviens simplement à l'idée de chronologie. On sait que l'histoire chronologique a été critiquée pendant longtemps par une école historique que l'on ne citera pas. Vous la réhabilitez par cet ouvrage. 26 409 journées de règne, 28 121 journées d'existence. Quel sens pour vous a la chronologie dans l'étude de l'histoire ?
D'abord, j'ai voulu l'appeler chronographie. J'ai voulu donner ce sous-titre à mon ouvrage plutôt que chronologie pour expliquer que j'envisageais quelque chose que je considérais comme plus riche qu'une simple chronologie assez sèche, donnant toutes sortes d'informations, aboutissant à quelque chose qui devait être justement à mi-chemin entre une simple chronologie et des annales beaucoup plus développées.
Vous avez dans votre avant-propos un texte particulièrement qui vise cette école qui a mis de côté l'histoire chronologique. L'histoire chronologique revient en quelque sorte dans les études ?
Je ne sais pas si elle revient dans les études. Je pense qu'elle a été peut-être un peu occultée. L'attaque que je mène, et qui n'est pas très violente, je crois que vous n'avez pas vous remarqué, contre cette école, c'est plutôt, non pas parce qu'elle a ouvert comme chemin, que je reconnais parfaitement à son actif. Cette école, effectivement, que nous ne citerons pas et pourtant que nous pourrions citer, a ouvert de nombreuses pistes dans la recherche historique qui n'étaient pas exploitées auparavant et qui devaient l'être. Mais cette critique qu'elle a formulée, parfois radicale, contre tout événement, contre tout fait, m'a semblé, évidemment, étant donné les sujets que j'avais choisi de traiter, un petit peu abusive.
Alors, venons-en à votre ouvrage. Vous l'avez dit, la source principale de celui-ci est la Gazette de Théophraste Renaudot. Qui était ce Théophraste Renaudot ?
Théophraste Renaudot est un personnage qui est très curieux, qui avait plusieurs cordes à son arc, plusieurs activités, mais principalement médecin et chronographe et journaliste. Il a inventé, peut-être pas lui, peut-être pas le premier à avoir eu ces idées-là, d'autres l'ont eu avant lui, mais il était le premier en tout cas à la réaliser concrètement, avec l'appui non négligeable du cardinal de Richelieu qui s'est intéressé tout de suite à cette opération, à cette entreprise. Théophraste Renaudot s'est donc lancé avec l'aide d'une sans doute une petite équipe de journalistes, dont, dit-on, le roi Louis XIII lui-même qui avait envie, qui avait intérêt, qui s'amusait parfois à collaborer à cette publication. Il s'est lancé dans cette entreprise journalistique, informative, d'un nouveau type, d'un nouveau genre.
C'est la naissance de la presse.
C'est pratiquement, peut-on dire, oui, la naissance de la presse hebdomadaire. Sinon de la presse quotidienne.
Il s'agit d'une aventure familiale, puisque à la mort de Théophraste Renaudot, le journal va rester dans la famille.
Dans la famille, exactement. Son fils, son neveu, après lui, je n'ai plus en tête les successions des Renaudot, mais oui, pendant plusieurs dizaines d'années après la mort de Théophraste Renaudot, qui est mort, je crois, vers 1665, si je me souviens bien, au moins pour plus d'un demi-siècle, la Gazette est restée dans la famille.
Existe-t-il un élément de comparaison avec nos journaux d'aujourd'hui ? Est-ce que l'on pourrait comparer, par exemple, ce journal avec notre journal officiel ?
On le pourrait à la rigueur, étant donné que c'est effectivement un journal officiel, avec quand même des différences fondamentales, c'est-à-dire que la Gazette de Théophraste Renaudot ne donnait pas, comme on pourrait le croire, pourrait penser que la Gazette de Renaudot aurait dû donner plus d'informations concernant les édits, les ordonnances, les déclarations royales. On en trouve trace. D'ailleurs, la Gazette de Renaudot et Renaudot lui-même et ses successeurs ont modifié petit à petit le contenu de la Gazette. Ils ont grandi, ils ont diminué la dimension de leur journal, de leur hebdomadaire. Ils ont consacré des pages à des événements dont ils ne parlaient pas au début de la Gazette dans les années qui ont suivi. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'information législative, qui était par ailleurs publiée dans des petits volumes in quarto de 4-8 pages, imprimés par des imprimeurs parisiens, on en trouve assez peu traces dans la Gazette. Donc de ce point de vue, c'est un journal officiel dans lequel il manque beaucoup d'informations officielles. En revanche, il y a dans la Gazette d'autres choses que l'on ne verrait qu'avec étonnement aujourd'hui figurer au journal officiel, des naissances dans la famille royale, bien sûr, des mariages, des baptêmes, tous les événements de la vie civile, de la famille royale, mais aussi des grandes familles du royaume, des grands aristocrates, des grandes familles ministérielles. C'est aussi un annuaire mondain qui renseignait la cour, la ville, les élites du pays et de l'étranger sur les élites françaises.
Qu'est-ce que l'on sait de sa diffusion ?
La Gazette avait d'abord une diffusion parisienne, avait une édition parisienne qui était donc diffusée à Paris, et elle avait un certain nombre de réimpressions qui étaient pratiquées dans les provinces. De mémoire, je dirais qu'il y avait jusqu'à 30 ou 35 villes de province qui en bénéficiaient, avec quelques petites différences. Moi, j'ai tenu justement à travailler sur la Gazette de Paris, qui est l'exemplaire officiel. À Paris et dans les provinces, on peut penser que le total devrait peut-être se situer autour de 8 à 10 000 exemplaires diffusés.
comment peut-on qualifier le type de journalisme ? C'est un journalisme officiel ? Est-ce qu'il y a une place à la critique ? Aujourd'hui, par exemple, quand on pense à l'Osservatore Romano, qui est le journal officiel du Vatican, il y a malgré tout une petite place à la critique. Est-ce que cette place à la critique existait dans la Gazette ?
Elle n'a pas une grande place, il est vrai. À la lecture, on se dit que d'ailleurs, ce n'était pas le lieu de le faire. D'abord, il y avait d'autres publications.
Qui étaient des libelles.
Voilà, à l'étranger, surtout en Hollande, qui s'en chargeaient. C'était de l'information pure, dans le domaine dont je vous ai parlé, mais également dans le domaine politique, bien sûr, concernant la France et l'étranger. Évidemment, de l'information passée à la critique gouvernementale. Mais, comme le dit M. Lucien Belli dans un ouvrage récent qui évoquait cette gazette, il fallait quand même que le texte soit lu par les élites françaises et étrangères, et on ne pouvait pas se permettre d'écrire des textes insipides, sans intérêt, qui n'auraient pas répondu quand même à une certaine attente des élites. Ce n'étaient pas forcément des gens idiots à l'époque, pas plus que nous, ou plus ni moins, enfin en tout cas différents, mais les élites auxquelles étaient destinées ces feuilles n'auraient pas digéré régulièrement, hebdomadairement, des falaises et des contre-vérités trop manifestes. Alors c'est plutôt une retenue, une autocensure certainement, qui consistait à ne pas dire certaines choses qui n'auraient pas convenu au gouvernement, certainement. Mais pour le reste, on a l'impression que c'est vraiment de l'autocensure bien pratiquée.
Alors venons-en à votre méthode de travail, en dehors des sources complémentaires sur lesquelles je vais revenir. Quelle a été votre méthode d'extraction, en quelque sorte, de l'information ?
Ça a été un petit tâtonnement, bien sûr, au départ. J'ai commencé à prendre certaines informations que je n'ai pas continuer à prendre par la suite. J'ai plutôt fait l'inverse et j'ai continué à enrichir mon travail en recommençant plusieurs fois des travaux que j'avais déjà faits, des dépouillements que j'avais déjà effectués, notamment pour vérifier. J'ai vérifié de nombreuses fois et relu et relu et relu. Et j'ai amplifié mon travail, mais surtout, je me suis rendu compte que je me suis lancé dans une opération à laquelle je ne m'attendais pas du tout, dont l'ampleur m'a surpris moi-même. Et je dois dire que j'ai fait cela avec un tel systématisme que si je devais le recommencer, je le ferais d'une façon peut-être différente. Enfin non, je suis content d'avoir abouti à ce résultat-là. Mais il y a quand même un gros travail que m'a donné notamment la citation de toutes les nominations des charges du roi à des charges diverses, militaires notamment, mais aussi civiles, que j'ai tenu à relever de la façon la plus précise. Parce que j'ai commencé, évidemment, dans les années 1638, 1640, 1650, où il n'y avait pas trop d'informations de ce genre, mais j'ai poursuivi mon travail. Et au fur et à mesure que la Gazette avance dans le temps, elle donne de plus en plus d'informations de ce genre. Et je me trouvais avec des listes effrayantes de militaires nommés, de chevaliers de Saint-Louis, d'autres personnes, d'abbés, pour des abbayes en commande. Et comme j'avais entrepris également et que je tenais à essayer d'identifier dans la mesure du possible tous les personnages que je citais, cette décision, qui n'en était pas vraiment une, m'a entraîné dans des recherches assez ardues et austères.
Je reçois Christophe Levental, auteur de Louis XIV, chronographie d'un règne publié chez Infolio. Nous nous retrouvons dans un instant.
Découvrez, les académiciens racontent l'histoire.
Canal Académie vous propose des lectures extraites d'ouvrages rédigés par des académiciens historiens du XVIIe siècle à nos jours.
Quatre extraits sur un même personnage ou sur un même événement.
Quatre regards, quatre styles, quatre points de vue différents.
Le 14 mai 1610, comme le carrosse de Henri IV passait rue de la Ferronnerie, un homme sauta sur le marchepied et perça d'un coup de couteau la horte du roi qui lisait une lettre. Il mourut sur le coup.
Le champ de bataille inspirait le Béarnais. Sa vaillance était son génie.
Il avait eu toujours besoin de plaire à ceux qui l'entouraient, de voir des visages gais.
Écoutez l'histoire de France, racontée par les académiciens.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à Louis XIV et plus particulièrement à la chronographie d'un règne. Chronographie d'un règne est le titre du livre de Christophe Levental, deux tomes, plus de 1000 pages qui décrivent tout simplement le quotidien du roi. Nous avons parlé, Christophe Levental, de votre source principale qu'est la Gazette de Théophraste Renaudot. Qu'en est-il des sources complémentaires ? Puisque on suppose, et vous l'avez d'ailleurs souligné. Il y a peut-être des manques dans la Gazette. Vous avez dû confronter certains éléments de la Gazette avec d'autres éléments. Donc, il y a bien d'autres sources que vous avez utilisées.
J'ai utilisé effectivement un grand nombre de sources imprimées et manuscrites pour compléter et faire le bon travail d'éditeur, le travail d'éditeur scientifique qui consiste à expliquer tout ce que les textes qu'il publie, dont il assure la publication, comprennent comme information incomplète, donc qui nécessite d'être complété, expliqué, enrichi. Ces sources, pour commencer par les manuscrits, ont été des séries d'archives dans lesquelles j'avais déjà travaillé auparavant pour différents ouvrages, qui me donnaient notamment les brevets, les lettres patentes de nomination des personnages cités par la Gazette, que j'ai essayé de retrouver systématiquement. Ensuite, je suis tombé, grâce à un ami, sur un carton très riche dans une série où on ne s'attendait pas, où je ne m'attendais pas à la trouver, dans la série Marine, un carton très riche sur les voyages militaires du roi, qui m'a servi beaucoup, ce carton et ses archives que j'ai trouvées dedans, m'ont servi beaucoup à compléter les voyages militaires du roi, notamment dans les Pays-Bas espagnols, et pour réussir à le suivre jour par jour et citer tous les lieux dans lesquels il est passé. Ça a été donc une des principales sources manuscrites que j'ai utilisées tout au long des événements militaires dont je parle. Mais j'ai également utilisé un grand nombre de sources imprimées, heureusement pour moi, dont le merveilleux journal de Dangeau, qui était critiqué par Saint-Simon, mais qui était très utilisé par Saint-Simon en même temps, et qui est un guide extrêmement sûr, peut-être encore plus précis que la Gazette de Théophraste Renaudot, parce que la Gazette est hebdomadaire, donc déjà donne une certitude presque absolue d'exactitude. Elle n'est pas toujours très exacte elle-même, c'est vrai. Elle ne donne parfois pas de date précise et elle dit les événements se sont passés ces jours passés. Donc il y a quand même un certain nombre d'approximations dans mon ouvrage. Mais étant hebdomadaire, elle ne peut pas inventer des événements qui ne se sont pas encore produits et on peut penser qu'elle n'a pas le don donc, de divination. En revanche, et plus précisément, le journal de Dangeau, lui, est écrit au jour le jour. Le marquis de Dangeau, qui était un familier de la cour très proche de Louis XIV, un ami même, peut-on dire, écrivait le soir même chez lui dans son appartement de Versailles tout ce qu'il avait entendu, vu dans son journal pour la postérité, heureusement pour nous. Et donc à une chronologie encore plus serrée, ce qui fait que j'ai eu recours à Dangeau, non seulement pour enrichir de diverses informations ma chronographie et ma gazette, mais pour la corriger parce que Dangeau était plus précis. Dangeau est donc la première source que j'ai utilisée un nombre incalculable de fois et citée pour, par exemple, les petits voyages du roi dans sa résidence secondaire, pourrait-on dire, de Marly, mais pour de tas d'autres raisons. Et on s'aperçoit que la Gazette, effectivement, ne donne pas toutes les informations, qu'elle est bien loin de les donner, et que même Dangeau et la Gazette ne donnent pas tout ce qu'on pourrait connaître, même officiellement sur la vie officielle, sur la vie publique du roi, et qu'il faut encore compléter cela par d'autres sources.
Alors justement, il y a un mot très important que vous utilisez, c'est la vie publique du roi. Le roi, par définition, ne s'appartient pas, c'est un personnage public. Qu'en est-il des faits privés et purement privés ?
Alors parfois, dans la Gazette, on a l'impression que le lecteur est pris comme un confident. Pas souvent, c'est vrai, et qu'il nous donne quelques informations plus précises, plus secrètes sur la vie privée du roi. Or, il n'en est rien. Bien sûr que toutes les informations données sont des informations officielles et que la Gazette n'est pas un organe de potin sur les petits secrets du roi. Mais on apprend la vie publique du roi, bien sûr, ce qu'il faut savoir sur ses grandes activités, ses grandes actions militaires, politiques et autres, mais également des petites informations sur la vie de cour, sur sa vie de famille, que l'on considérerait comme des événements tout à fait privés s'il s'agissait d'un particulier, mais s'agissant du roi Louis XIV, évidemment, même ses activités de famille peuvent être aussi considérées comme des activités publiques appartenant à la vie du royaume, à la vie révélée, à la vie publique du royaume.
Alors, pour rendre l'utilisation de votre ouvrage aisée, vous avez complété celui-ci par un index qui est incontournable, un énorme travail. Il y a ces milliers de noms qui apparaissent, index des noms de lieux, de personnes, index également thématiques. Alors, on réalise évidemment, en parcourant cet index, l'importance de certaines personnes ou de certains lieux, par exemple Marly est omniprésent, ou bien encore la chasse.
Marly ou la chasse. J'aurais pu vous citer encore d'un exemple que j'ai réduit considérablement parce que ça n'avait pas un grand intérêt et j'avais quand même peur de dépasser les limites raisonnables pour cet ouvrage, tout en ayant, comme je vous l'ai dit, le souci de trouver un éditeur, ce que je n'avais pas encore fait. Et donc j'ai réduit et j'ai supprimé l'entrée vêpres, ou du moins je n'en ai fait qu'une petite allusion aux vêpres auxquelles le roi assistait très fréquemment parce que ça me faisait 3 colonnes d'index supplémentaires. Donc il y a quelques suppressions, mais j'ai maintenu pour Marly, et Marly surtout a retenu mon attention. D'ailleurs, à l'issue du colloque que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai été remercié par un jeune historien qui prépare un doctorat sur Marly et qui a trouvé que mon travail pouvait lui rendre de grands services, ce dont je suis ravi parce que c'est quand même pour cela que l'on fait des travaux pareils. Ce n'est pas pour soi-même, c'est bien sûr un peu pour soi-même, pour s'occuper, pour faire passer du temps plus intelligemment que devant la télévision. C'est aussi pour que les autres s'en servent. Et d'ailleurs, tous mes travaux sont faits dans ce but-là. Donc, j'étais ravi de l'apprendre. Et Marly, comme vous l'avez remarqué, vraiment une entrée abondamment pourvue.
La chasse.
La chasse également, parce que c'était le loisir favori du roi, parce que c'est une tradition chez les rois de France d'aimer la chasse, parce que Louis XIV, en plus, est un homme de grand air, de nature, qu'il aimait particulièrement la fraîcheur, il ne supportait pas d'être enfermé, et en plus, parce que cette activité le délassait quand même de toutes ses activités gouvernementales qu'il faut bien qualifier d'intellectuelles.
Alors, il y a des thèmes beaucoup plus improbables, mais qui ont aussi leur importance. Il existe, par exemple, une entrée dans l'index météorologie ou bien sciences et techniques, qui montrent en fait, encore une fois, la richesse de la vie du roi, nous allons y revenir.
Ce qui m'a amusé, c'est de trouver dans les voyages du roi des mentions faites au chemin bourbeux, au chemin défoncé, au changement d'itinéraire causé par ces aléas climatiques et par toutes les mentions que l'on trouve, peut-être pas très nombreuses, mais tout de même, de ça, de ci, de là, évoquées dans la Gazette.
Il y a un thème sur lequel je me suis arrêté dans l'index qui est assez important, c'est celui de serment. Alors, on pense que le serment disparaît avec l'âge féodal. Or, il est omniprésent dans la vie du roi de l'époque moderne.
Il y avait énormément de grands personnages qui devaient prêter serment. Certains devaient le prêter auprès de collaborateurs du roi proches, comme le chancelier de France ou de grands maîtres de la maison du roi. Mais d'autres devaient prêter serment, comme les évêques, par exemple, devaient prêter serment entre les mains du roi. Et c'est à ces occasions-là que l'on trouve ces mentions effectivement assez abondantes, je crois, comme vous l'avez relevé dans cette chronographie.
Alors, en parcourant votre ouvrage, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai pensé au livre de jeunesse qui tente à simplifier au maximum les événements. Et mon fils, par exemple, a un livre sur Louis XIV qui présente la journée type du roi. Peut-on vraiment parler d'une journée type au regard précisément de la diversité des événements que vous décrivez ?
Alors, ça nécessite 2 petites précisions, je pense. D'une part, il faut bien savoir que la vie du roi a évolué, que sa vie de fin de règne, sa vie de vieil homme, n'était pas la même que celle de sa vie de jeune homme. Donc, il y a des changements dus à cela. Il y a aussi des changements dus à ses activités. Et c'est vrai aussi que sa vie quotidienne, telle qu'elle peut être décrite dans un ouvrage comme celui de Madame Béatrix Saulle, directrice générale de Versailles sur la journée de Louis XIV, est une journée type à Versailles, mais que les journées que le roi passait sur les chemins pour se rendre dans ces Pays-Bas espagnols que j'évoquais tout à l'heure, ces journées-là sont bien différentes, vous en doutez bien, même sans avoir besoin d'évoquer les cas étonnants que la Gazette évoque quand elle cite les tables sur lesquelles le roi a dû coucher dans une grange ou quand le roi a couché dans son carrosse. Donc là, évidemment, la vie quotidienne réglée du roi était totalement bouleversée. Mais il y a aussi ce que la Gazette révèle, et la Gazette a tendance plutôt à révéler les événements, je ne dis pas extraordinaires, mais les événements inhabituels, les événements ponctuels qui ne sont pas de la routine quotidienne. Elle ne va pas tous les jours, bien sûr, ni toutes les semaines, ni tous les mois, vous répéter que le roi c'est exactement à la même heure et que le roi a déjeuné à telle heure et que le roi est allé à la chasse à telle heure. La chasse est souvent mentionnée, il est vrai, mais il y a quand même des activités récurrentes. Des prises du roi, je n'en ai pas souvenir, non, pas vraiment.
Je ne crois pas. Je vous ai coupé dans votre
élan. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas cela en mémoire. Oui, donc il y avait des journées types, des journées bouleversées, et la Gazette donnait quand même des informations ponctuelles, qui, des réceptions d'ambassadeurs, des nominations de personnages qui évidemment ne se retrouvaient pas tous les jours.
Vous montrez d'ailleurs, je crois, à plusieurs reprises les changements d'emploi du temps du roi au début de plusieurs années.
Oui, parce que notamment dans l'organisation des conseils de gouvernement, les jours n'étaient pas les mêmes, les conseils ont changé. La source dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le journal de Dangeau, lui-même fait état de ces changements et j'ai trouvé intéressant. En même temps que je mettais quelques informations, que je plaçais quelques informations sur la santé du roi au cours de ces années-là, de donner, quand Dangeau les rappelait, quelques informations sur l'organisation du travail du roi à ce moment-là, à cette époque-là.
Je reçois Christophe Levental, auteur du livre Louis XIV, chronographie d'un règne, en 2 volumes, plus de 1000 pages parues aux éditions Infolio, un ouvrage indispensable pour tout étudiant, mais également pour tout professeur et tout passionné de ce règne, de ce grand siècle. Nous nous retrouvons dans un instant.
Au roi Soleil, elle donna 8 enfants. Canal Academy vous propose de dresser le portrait de Madame de Montespan dans l'émission Un jour dans l'histoire, en compagnie de Mathieu Davina du Centre de recherche du Château de Versailles. Une émission en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Louis XIV et je reçois Christophe Levental, auteur du livre Louis XIV, chronographie d'un règne paru aux éditions suisses, aux éditions Infolio. Alors, nous avons évoqué les sources, Christophe Levental, nous avons évoqué également votre méthode de travail, les différentes entrées, les différents index. Je voudrais revenir simplement et terminer cette émission sur l'évocation du règne, parce que votre avant-propos est magnifique. Vous aimez ce roi pour travailler 10 ans sur un règne, on le comprend aisément. La première réflexion, peut-être sans prendre parti pour ou contre, eh bien, c'est que tout simplement, être roi de France est un métier comme un autre, c'est un travail.
C'est un travail, un gros travail régulier, un travail quotidien et un travail parfois monotone. Le roi a dit que c'était un travail délicieux, mais il a précisé, parce que souvent on ne mentionne que cette première partie de sa phrase disant que le métier de roi est noble et délicieux, mais on oublie souvent de préciser que le roi lui-même, tout de suite après, a enchaîné en disant mais qu'il n'était pas exempt de peine, de tracas, de soucis. Ce n'est pas la phrase exacte, mais c'est la phrase approximative que je vous cite. Et c'était un métier intellectuel, même si on a tendance à dire que Louis XIV n'était pas intellectuel, on est quand même bien forcé de reconnaître que ce métier était un métier intellectuel plus que physique. D'ailleurs, s'il avait besoin tant d'activité physique pour se délasser, c'est bien parce que ce métier était intellectuel et qu'il a beaucoup travaillé tout au long de sa vie jusqu'à l'extrême fin de cette existence, on peut le dire, jusqu'au dernier jour de ses forces. Au mois d'août 1715, il a tenu à assumer ses fonctions qu'il avait commencé à assumer dès sa jeunesse, presque même avant l'âge de 5 ans, presque même avant de devenir roi. On a quand même des témoignages qui prouvent qu'il était conscient de ce qu'il était et qu'il s'est lancé ensuite, même sans attendre l'année 1661 et la mort de Mazarin, dans son métier de roi. Peut-être en gardant ce secret que tout le monde lui reconnaît, cette aptitude au secret que d'aucuns qualifient de dissimulation même sans malveillante intention, cette aptitude au secret qu'il a gardée et qui a trompé beaucoup de monde jusqu'en 1661 et même quelques semaines, quelques mois après ce commencement de règne personnel à la mort de Mazarin.
Nous allons reparler du règne personnel. Je reste sur le travail. C'est quand même un personnage hors norme. Le roi est travailleur, le roi est constant. Et j'allais dire, il use beaucoup de ministres et les ministres sont surmenés. Il les fait travailler derrière lui également.
Ministres surmenés certainement. D'ailleurs, ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme ont été remerciés. Mais d'un autre côté, il les maintenait en poste quand même très longtemps et n'a pas travaillé avec une très grande équipe. Quand on pense à la durée du règne, il n'a pas travaillé avec une très grande équipe de ministres et de secrétaires d'État. Il peut compter ses proches collaborateurs sur les doigts de 4 mains, je dirais.
Alors, c'est le sujet d'une thèse à lui tout seul, mais transparaît également le sens de l'État. Alors, la date de 1661 a toute sa raison d'être. Vous insistez dans votre avant-propos qu'il n'a pas souhaité révolutionner la société française. Est-ce que l'on peut dire que, au fond, Louis XIV est un chaînon dans l'histoire de l'absolutisme, mais nullement le père fondateur tel qu'on a voulu le voir?
Alors sur l'absolutisme, il y aurait énormément de choses à dire. Ce que je regrette, c'est que les historiens qui en parlent ne disent pas toujours ce qu'ils entendent par là et apparemment ne savent eux-mêmes pas toujours ce qu'ils entendent par là et ne savent même pas en dater en fait le début. Car quand vous prenez des ouvrages, par exemple, sur le règne de Philippe le Bel, fin 13e, début 14e siècle, 1285-1314 pour être exact, vous apercevez que la plupart des ouvrages qui traitent de l'époque de Philippe le Bel parlent de monarchie absolue. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans l'historiographie quand on parle de cet absolutisme à propos de Louis XIV. Je veux bien qu'on en parle, mais à condition qu'on définisse le terme. Et pour l'instant, je ne pense pas que ça ait été fait. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mmh. C'est une notion très difficile. Ce n'est pas forcément faux, d'ailleurs. Il y a une part de vrai. Mais en tout cas, ce n'est pas un système.
Vous parlez d'un absolutisme prétendu ou mal compris.
Voilà, à cause de cela, parce que l'absolutisme du roi, ça pouvait être dans son esprit son indépendance de roi temporel par rapport à la papauté. Ça pouvait être aussi son indépendance vis-à-vis des partis, des factions, des clientèles. Ça pouvait être beaucoup de choses. Et certainement pas un pouvoir total, un pouvoir de faire tout et n'importe quoi, sans règles, sans freins, sans limites, sans tradition. Ce n'était certainement pas cela que Louis XIV a entrepris, même s'il y a eu quelques dérapages, quelques accrocs, comme la légitimation de ses fils adultérins, Madame de la Vallière et de Madame de Montespan, qui sont vraiment là un accroc réel, quoique peut-être moins grave qu'on a pu le dire, sont néanmoins un accroc réel aux lois fondamentales du royaume.
Mmh. 1661, donc c'est une coupure. D'ailleurs, votre ouvrage est divisé en quatre périodes et la fin de la première période, c'est 1661. Mais vous voulez relativiser 1661 ?
Non, je ne relativise pas. C'est-à-dire que 1661 reste une date fondamentale parce que d'abord, le 14 a quand même surpris tout le monde à son époque en prenant, entre guillemets, le pouvoir, surtout en le conservant. On estimait beaucoup, pas tous, mais certains témoins et même d'assez nombreux témoins pensaient qu'il tiendrait quelques jours ou quelques semaines à ce rythme-là et qu'il abandonnerait très vite les rênes à un nouveau principal ministre. Ce que l'histoire l'a montré, Louis XIV n'a pas fait. Donc, je ne peux pas relativiser cette date de 1661. Autant je pourrais dire que la date de 1682 que j'ai choisie comme deuxième coupure de mon travail, de ma chronographie, peut être, elle, sujette à discussion parce que c'est le déménagement à Versailles, c'était commode. Mon travail est un ouvrage qui repose beaucoup sur les déplacements du roi. Donc, ce changement de résidence, entre parenthèses, entre guillemets, définitif, était pour moi une date importante, mais j'aurais très bien pu prendre 1679, la date du traité de Nimègue, des années 1679-1680 ou 1683, la mort de la reine. Et malheureusement, la pauvre reine n'a pas une grande importance, et peut-être plus la mort de Colbert. D'autres dates sont charnières, sont possibles à ce moment-là. Mais 1661, non, je ne renie pas 1661. Simplement, je dis que d'abord que le roi n'a pas eu à prendre le pouvoir parce qu'il avait le pouvoir. S'il était à lui, il avait à exercer le pouvoir quotidiennement, ce qu'il a commencé à faire, oui, à la mort de Mazarin, certainement.
Alors, nous le disions en début d'émission, Louis XIV est aussi un homme, mais comme tout homme, il a des souffrances physiques et également des souffrances morales. Les souffrances physiques sont présentées, on le voit très bien dans l'index, et vous décrivez même tous les maux dont il souffre.
C'est une litanie absolument stupéfiante quand on suit la vie du roi et quand ensuite on rentre dans les détails des difficultés de santé qu'il a dû affronter, on est un peu surpris et on ne peut pas ne pas être admiratif. Oui.
Ouais. Je me permets de les citer. Hein. Abcès, accident, blessure, autopsie, blénorragie, catarrhe, choléra, morbus, dents, dysenterie, fièvre continue, fistule, gangrène, goutte, liniment, etc., etc. Jusque l'inévitable vérole et même les vertiges. Il y a ce paradoxe de cette force de la nature, parce que c'était une force de la nature. Et ces mots.
À la fois, quelqu'un qui a subi des agressions algiques répétées, renouvelées, variées, avec une grande constance, et à la fois quelqu'un qui certainement avait, appréciant l'air frais, même la grande fraîcheur, aux grandes dames de ses proches, dont Madame de Maintenon, supportant des charcutages de chirurgiens de l'époque avec la plus grande constance, des choses qui nous feraient frémir et que nous ne voudrions même pas imaginer qu'il a supporté avec une constance étonnante, sûrement aidé par sa conscience d'avoir à représenter une dignité extraordinaire et de pouvoir se permettre des faiblesses que le commun des mortels aurait pu avoir.
Alors je parlais des souffrances physiques, il y a également les souffrances morales, et on sait que la fin du règne, notamment l'année 1711, si mes souvenirs sont bons, les années 1711-1712, sont marquées dans son entourage par la mort et la disparition.
Il y a un excellent livre qui vient de sortir de M. le professeur Olivier Chaline sur cette année-là, 1711-1712, l'année des quatre dauphins, qui montre comment le roi a subi cette disparition de son fils bien-aimé, son fils unique, légitime, le grand dauphin, Monseigneur, comme on l'appelait, en 1711, suivi de moins d'un an plus tard par la mort, d'abord de sa petite bru, la duchesse de Bourgogne, puis 8 jours plus tard par le mari de la duchesse de Bourgogne, donc le nouveau dauphin, l'ex-duc de Bourgogne, puis quelques semaines ou quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard par le fils aîné de ce couple-là, le troisième dauphin, et qui donc a ouvert la porte au dernier qui a subsisté par miracle, le futur Louis XV. Donc il y avait tous ces deuils familiaux que le roi supportait avec une grande dignité, plus les malheurs, les difficultés de la fin de la guerre de succession d'Espagne, plus divers soucis de vieillesse qui s'ajoutaient à cela. Ça faisait vraiment beaucoup.
Le roi avait peur de la mort ?
Sa fin tendrait à prouver qu'il ne l'a pas redouté, en tout cas qu'il l'a attendu, qu'il l'a accepté en chrétien total qu'il était. Il a dit à ses courtisans « Pourquoi pleurez-vous ? Vous imaginez quand même pas que j'étais immortel », prouvant que lui-même ne le pensait pas, malgré les inscriptions diverses sur des médailles, sur des frontons, sur divers monuments au cours des années glorieuses du règne, qui allaient jusqu'à évoquer une possible immortalité, mais sans trop y croire certainement. Lui-même n'y croyait pas, lui-même était fondamentalement chrétien, et je crois que sa mort prouve qu'il n'a pas eu peur de la mort, sinon, comme tout chrétien, peur de ses péchés.
Alors je voudrais terminer cette émission sur les vérités et les légendes. Vous rétablissez des vérités, notamment sur les prélèvements dans votre avant-propos, sur les prélèvements et les dépenses de l'État, qui n'ont strictement rien à voir avec les dépenses de l'État aujourd'hui, vu qu'il y avait beaucoup moins de fonctionnaires.
C'est certain. Maintenant, mon travail n'était peut-être pas de comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais j'ai tenu quand même, dans cet avant-propos, à dire certaines choses et à rappeler certaines vérités qui me paraissaient nécessaires. Parce que oui, si on critique certaines dépenses de Louis XIV, pourquoi pas ? Mais il faut d'abord les remettre dans leur contexte, voir à quoi elles ont servi et voir aussi que de nos jours, on ne se gêne pas pour dépenser 10 fois plus pour des raisons qui ne sont peut-être pas aussi bonnes que celles de laisser un palais comme celui de Versailles à la France et d'autres choses comme des provinces qui ont été bien utiles à sa protection et qui ne regrettent pas apparemment d'être attachées à la France depuis ces époques.
Vous évoquez aussi l'inévitable révocation de l'édit de Nantes qui lui-même devrait être l'objet d'un colloque entier. Mais on a beaucoup reproché à Louis XIV l'émigration des protestants. Or, vous présentez tout simplement l'arrivée des catholiques irlandais.
Oui, parce qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre à une seule personne à l'époque et ne pas oublier que dans le contexte de l'époque, la tolérance religieuse était une chose qui n'était pas bien comprise. Ce n'était pas une notion de l'époque, on n'a pas à jeter la pierre sur cette époque et à la critiquer. Louis XIV, effectivement, avec la révocation de l'édit de Nantes de 1685, a contraint un grand nombre de protestants à émigrer parce qu'ils ne voulaient pas se convertir. Mais dans le même temps, l'Angleterre protestante persécutait les catholiques et donc la France a accueilli, et ça on le sait bien sûr, un grand nombre de réfugiés jacobites catholiques d'Angleterre. Chiffre qui ne compense pas bien sûr celui des départs de huguenots français pour l'étranger. Les chiffres sont discutés, les deux chiffres, celui des réfugiés jacobites, autour de 40 000 à peu près réfugiés en France. On en trouve trace dans une source que j'ai utilisée pour un autre travail, le cabinet des titres de la Bibliothèque nationale, des séries généalogiques de la Bibliothèque nationale, et celui des Huguenots français qui ont dû partir, qui étaient peut-être 100, 120 000, 150 000, 200 000. Donc, bien plus d'un chiffre bien plus conséquent, certainement, que celui des Jacobites. Mais ce n'est pas uniquement pour le chiffre que j'ai cité, c'est aussi pour le chiffre, parce que 40 000, c'est quand même un chiffre important d'immigrés dans l'autre sens, parce qu'il fallait rappeler que c'est une pratique habituelle et que si la France malmenait peut-être du point de vue de leur foi des protestants, en revanche, les catholiques étaient malmenés aussi pour leur foi dans d'autres pays.
Alors, il existe une légende noire de Louis XIV, mais j'allais dire, cette légende, on a l'impression qu'elle tente à disparaître. Versailles est visité par le monde entier, l'exposition sur Louis XIV, l'homme, et le roi a été, elle aussi, un succès. Elle a fait penser au succès de l'exposition sur Marie-Antoinette. Le roi Louis XIV est un succès de librairie. J'ai reçu plusieurs fois ce micro Jean-Christian Petit-Fils. Il pourrait en parler. Est-ce que vous sentez que cette légende noire tend à s'estomper et qu'elle montre, au fond, un personnage politique? Parce que, encore une fois, le roi a un métier, et le métier de la politique. Et il est l'incarnation d'un personnage qui montre que quand on a la volonté, eh bien, on sait arriver à ses fins.
Pour répondre à la fin de cette question, quand on a la volonté, oui, aidé par un genre particulier d'institution, ayant le temps devant soi. C'est certain que Louis XIV, sa vie pouvait être interrompue, il le savait mieux que quiconque, par n'importe quel événement, une maladie et autre chose, à n'importe quel autre moment. Il n'était pas assuré de l'éternité et même de la très longue durée. En revanche, le roi avait cette durée a priori devant lui pour assumer ses charges professionnelles.
Et la légende noire, est-ce que vous pensez qu'elle s'estompe ?
Alors la légende noire, elle peut s'estomper en partie. D'abord, on s'aperçoit quand même que les personnes qui en sont à l'origine avaient comme des raisons que l'on connaît maintenant de le dénigrer, ne l'ont pas bien compris, comme Saint-Simon que je cite, qui est un personnage exceptionnel, qui a un style, une plume magnifique, que j'ai utilisé de nombreuses fois, qui est un témoin irremplaçable pour l'époque, mais qui n'a pas bien compris Louis XIV, qui était d'abord d'une toute autre génération de lui, et qui était d'une sorte d'opposition au roi, larvé, qui ne pouvait pas le comprendre. Fénelon aussi a fait beaucoup de mal par son idéalisme. Je le dis aussi, les plumes protestantes, évidemment, ça se comprend bien, ne pouvaient plus penser sans écrire sereinement, on les comprend. Puis ensuite, ce qui est plus grave peut-être, c'est que certaines personnes, certains historiens post-révolutionnaires, eux, ont, je crois, n'ont pas fait leur travail d'historien et ont plutôt instruit un procès à charge, plutôt que d'essayer de comprendre vraiment ce qu'étaient les choses de l'Ancien Régime, comment ça fonctionnait, sans porter de jugement ni pour ni contre, mais essayer un petit peu de comprendre au lieu de dénigrer systématiquement. Et heureusement, il y a toujours eu une historiographie depuis le début du XXe siècle notamment, qui a remis un petit peu les choses à l'heure, qui a quand même montré que c'était un personnage exceptionnel, un règne exceptionnel, ne serait-ce que par sa durée, par ce qu'il a construit, par l'émulation artistique sans précédent qu'a connue cette époque, qu'on ne peut pas parler de l'époque de Louis XIV et du règne de Louis XIV avec tant de désinvolture que certaines personnes l'ont fait. Il y a eu de grands historiens qui ont produit des œuvres magnifiques, comme M. François Bluche avec son Louis XIV de 1986, et d'autres plus récemment. Je citais tout à l'heure M. Chaline, qui a publié cette année Des Quatre Dauphins, mais qui, il y a 4 ans, a publié un monumental règne de Louis XIV. M. Petit-Fils, que vous citiez également, a fait un très gros travail sur le roi, et sans cacher les ombres, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les mêmes pour les uns ou pour les autres, mais sans cacher les ombres du règne et du roi, ont remis quand même les pendules à l'heure et redit quelles étaient la vérité et le sérieux de la vérité.
Eh bien, merci beaucoup Christophe Levental d'être venu au micro de Canal Academy pour nous présenter cet ouvrage, donc Louis XIV, chronographie d'un règne, plus de 10 ans de travail, plus de 8000 notes, 20 000 entrées d'index, et dire s'il est indispensable pour tous nos étudiants français internationaux, puisque je rappelle que cet ouvrage a été édité par un éditeur suisse. Hein,
mais diffusé en France.
Et diffusé en France.
Par la société Volumen.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.
Thank you.